Un voyage, une expérience, un périple, une aventure. Tous ces mots rentrent dans la définition d'une odyssée. Je suis Jérémy Chaleroux et je vais mettre en avant dans ces podcasts les plus belles aventures aux quatre coins du globe. Le but étant de rencontrer des voyageurs et de vous partager leur expérience. Alors, quelle odyssée souhaitez-vous écouter aujourd'hui ? Hey, êtes-vous prêts pour un nouvel épisode captivant ? Avant cela, je suis ravi de vous annoncer le partenariat avec Gobayava, expert de la mobilité internationale et de l'assurance voyage. À tous les aventuriers qui souhaitent découvrir de nouvelles destinations, Gobayava est là pour vous proposer les meilleures assurances voyage. Je les remercie de m'accompagner pour cette nouvelle saison et je vous retrouve à la fin de l'épisode pour un petit cadeau. Maintenant, place à l'épisode. Parfait. Allez, c'est parti pour un nouveau rendez-vous et un nouvel épisode de Quelle Odyssée aujourd'hui. Je suis accompagné d'Amélie. Salut Amélie, tu vas bien ?
Super, et toi ?
Bah écoute, très bien, je suis ravi d'être là.
Pareil.
Franchement, tu m'as donné un petit point de rendez-vous super sympa. On est au pavillon de...
Pavillon des Canaux, le long du canal de l'Ourcq à Paris.
Incroyable. Franchement, et puis on a une belle journée aujourd'hui.
Plutôt ensoleillé, ouais. On a de la chance.
Bon, en tout cas, ravi que tu aies accepté cette invitation. Je suis ravi de proposer cet épisode un peu atypique pour cette saison 4. Et aujourd'hui, on va parler plongée.
Oui.
On va parler plongée, donc le sujet va être très vaste, je le sais, mais je pense que il va rester super passionnant. Donc j'ai plein de questions à te proposer. Et surtout, avant de commencer et pour bien démarrer cet épisode, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ?
Alors, j'ai 36 ans, je fais de la plongée depuis l'année 2010, donc ça fait déjà 13 ans que je fais de la plongée. Je suis arrivée à Paris juste après le Covid et en ce moment je travaille dans les restaurants parisiens. D'accord. Donc un peu loin de la plongée, mais c'est pour mieux y retourner dès la fin de l'année.
Bien sûr, et tu étais où du coup avant Paris ?
Avant Paris, j'étais aux Philippines. Pendant le Covid, malheureusement.
Malheureusement.
Et il a fallu rentrer, oui.
C'est clair. Très bien. Bon, tu vois, déjà, j'ai plein de questions. Comment t'es venu déjà cette envie de plonger en 2010? Il y a eu un déclic. Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, un peu par hasard, j'étais avec un ami avec qui on en avait parlé plusieurs fois. Et j'habitais à cette époque-là sur Aix-en-Provence, donc à côté de Marseille, un petit peu le berceau de tout ce qui a été fait en plongée, en tout cas moderne. Et puis c'était l'été, on s'est dit allez pourquoi pas, on s'est inscrit sur l'Open Water, du coup qui est le premier niveau de plongée, mais à l'international, qui n'était pas du coup sur la fédération française. Et alors c'est drôle parce qu'en fait j'aurais pas dû pouvoir vraiment plonger, j'avais hyper mal aux oreilles, je mettais beaucoup de temps à descendre et en fait la passion elle était là quoi, je voulais plus remonter. Et mon instructeur du coup il me disait mais normalement ça arrive pas tout de suite, ça arrive bien plus tard ça, ce genre de sensation sous l'eau. Il me disait c'est quand ça fait au moins 300-400 plongées que t'as plus envie de remonter et en fait ouais moi c'était toujours à chaque fois je me disais non mais c'est pas possible, pas déjà. J'avais envie de rester.
Wow, bon. Et du coup depuis que t'as fait cette première plongée là donc sur Marseille, tu t'es dit j'ai envie de continuer, je vais aller encore plus profond, je vais aller découvrir encore plein d'autres choses.
Alors juste après Marseille, donc j'ai eu mon premier niveau donc qui a été validé. J'ai continué un petit peu à plonger ce qu'on appelle en exploration, donc qui est juste en fait de la plongée plaisir, ce qu'on appelle les fun dive en anglais. Et je suis partie derrière à Cuba en vacances, je crois que j'ai été certifiée en septembre et en décembre j'étais à Cuba. Et pareil, des plongées incroyables, et je me suis retrouvée à plonger au milieu des requins, les bull sharks. Et là, je me suis dit, non, mais c'est ça que je veux faire. Je veux voir des choses aussi extraordinaires tous les jours de ma vie. Et je pensais jamais avoir un jour le niveau, en fait, ce qui est drôle, parce que t'es un bébé plongeur encore. Ça faisait peut-être 15 plongées que j'avais fait dans ma vie. Et je me voyais pas finalement arriver plus d'un millier de plongées plus tard à être instructrice et donner moi aussi des cours de plongée.
Oui, justement, on va revenir sur cette partie-là. Je vais revenir quand même sur cette expérience. Enfin, comment tu te dis, tiens, aujourd'hui, je vais aller plonger avec des requins, enfin, des bull sharks quand même, c'est quand même dangereux quand même comme espèce.
Alors, les requins, c'est un vaste sujet. On pourrait en faire des heures de discussion aussi. C'est vrai que tout le monde a un peu cette histoire du requin mangeur d'hommes, super méchant et agressif. Et en fait, sous l'eau, ça change complètement la donne. Il faut savoir que on a seulement une dizaine de personnes par an qui meurent dans le monde à cause des requins, ce qui est bien loin en fait de tous ces films de terreur que l'on voit et de l'image en fait qu'on peut avoir de ces requins tueurs. Et sous l'eau, les requins sont pas du tout agressifs. Ils sont au contraire plutôt effrayés ou intrigués par par ces grosses choses que l'on est, qui font des bulles en plus, donc on est bruyant. Ils aiment pas trop ça. Et du coup, ils viennent plutôt regarder timidement et s'éloigner. Mais ils viennent pas pour attaquer, à moins que vraiment on fasse des gestes déplacés. Après, ce qui est le bull shark qui est en fait le problème à la Réunion, donc c'est surtout parce que c'est avec les surfeurs et qui ressemble malheureusement pour les requins vus du dessous à des tortues, quoi.
C'est
à quelque chose qui est mangeable pour eux.
Typiquement, j'ai de la belle famille en Nouvelle-Calédonie et c'est un peu le même problème que la Réunion, quoi.
Ouais.
Donc tu vois, là on est en 2023 et il me semble que jusqu'à la fin de l'année il est interdit d'aller se baigner dans la mer, tu vois, en Nouvelle-Calédonie.
Ouais.
Donc
ouais,
bon.
Dur.
Mais t'as raison, c'est quand même une très petite minorité. J'ai déjà vu un requin de près comme ça, mais j'ai jamais vraiment plongé fait des trucs comme ça. Bon, bref. Est-ce que tu es quelqu'un quand même qui est passionné d'aventurer? Est-ce que t'as forcé le destin pour vivre ces expériences-là ou c'est quelque chose qui est naturel?
Avant de vraiment commencer à voyager, j'ai vécu à la campagne française, très loin de la mer. J'ai vu la mer, je crois, pour la première fois. J'avais 8 ou 9 ans. Enfin, c'était tard. Et je pensais pas être forcément quelqu'un de très aventurière ou qui aimait prendre des risques. Et en fait, je me rends compte que la peur, c'est quelque chose qu'on s'impose et qui nous bride. Et en se libérant de ces peurs, en fait, on peut faire tellement de choses. Et c'est souvent, en fait, des images, des codes de la société qui nous empêchent de faire certaines choses, alors qu'en fait, c'est plutôt facile.
Effectivement, c'est des barrières mentales qu'il faut casser.
Ouais.
Et une fois que tu passes ce cap, qui est le cap le plus difficile finalement, mais après, finalement, tu arrives à réaliser tous les rêves que tu souhaites. T'as réalisé des rêves là depuis que t'as commencé à plonger?
Beaucoup, ouais. Le premier, surtout, c'était plonger avec un requin baleine.
Ok.
Donc,
de quel côté?
En Thaïlande.
Ok.
Et c'était, je l'ai attendu. J'ai vécu presque 2 ans du coup en Thaïlande. Et je l'ai vu sur ma dernière plongée. C'était vraiment le cadeau de départ. Et je me disais, mais c'est pas possible. Je vais jamais le voir. Et quand il est arrivé, c'était vraiment, c'était encore meilleur,
du coup.
Que si ça avait été sur la première.
C'est clair. Ouais, je viens de croire. Bon. On a parlé déjà beaucoup de destinations, de spots. Et je veux quand même revenir un peu sur un autre sujet qui est le côté technique.
Ouais.
Aujourd'hui, quelqu'un de novice qui souhaite plonger, comment ça se passe? Comment on commence à plonger?
Alors là, on va dire la majorité, on va tous commencer plutôt par un baptême. Donc en France, il faut savoir que c'est encadré avec un seul moniteur pour un élève. C'est la loi française, hein, c'est comme ça. Donc normalement, qui est plutôt assez proche, qui peut même tenir l'élève par la bouteille. Donc ça va être, on va dire, sur des mouvements assez limités dans l'eau. C'est limité à 20 minutes également d'immersion. C'est une chouette expérience. Après, nous, on faisait un modèle qui, en fait, qui est international, du coup, sur l'étranger, où j'ai commencé à enseigner, donc en Thaïlande et aux Philippines. C'est un modèle où on est un instructeur pour 4 élèves, mais où on apprend les règles de sécurité. On a un grand briefing avant d'aller sous l'eau. Et où du coup on fait plusieurs types d'exercices pour pouvoir partir ensuite en balade en toute sécurité sans être obligé d'être agrippé à cet élève qui a peut-être envie aussi un petit peu de voler par ses propres ailes sous l'eau, hein. Et du coup on n'est pas limité dans le temps non plus, donc un baptême peut durer très bien 1 heure sous l'eau selon la consommation d'air en fait de ces élèves. On est à faible profondeur et il n'y a pas vraiment de risque, quoi.
Oui, bien sûr.
Et donc on commence en général comme ça, et après on va commencer à passer à une première certification de plongée, soit le niveau 1 du coup français, soit un open water au niveau du coup international. Il faut savoir que les deux de toute façon seront reconnus dans le monde entier pour pouvoir plonger, sauf que le niveau 1 va à 20 mètres et le niveau open water international va à 18 mètres.
Oui.
Donc c'est une petite différence de 2 mètres, c'est pas vraiment
D'accord.
C'est pas vraiment une grosse différence.
Il y a combien de niveaux à avoir pour être plongeur professionnel certifié.
Alors après, ça, en fait, c'est ce que j'essaie d'expliquer à mes élèves, c'est que c'est pas forcément derrière le diplôme qu'on devient un bon plongeur. Des fois, j'ai des gens, ils veulent absolument passer plein de certifications, plein de spécialités. Alors c'est chouette, ça veut dire qu'on s'intéresse à plein de choses. Mais en fait, être un bon plongeur, c'est bête, mais c'est plonger, tout simplement. Ouais. Donc on peut être un très bon plongeur en ayant un niveau 1, l'open water. Moi, je crois que je suis restée presque 7 ans avec mon open water. Parce que finalement, j'avais pas forcément besoin d'aller plus profond. J'allais beaucoup plonger dans les eaux chaudes. Donc, en fait, la majorité de la vie, elle est entre 0 et 12 mètres.
Oui, finalement.
Elle est pas forcément à 40, parce qu'à 40, à part pour aller voir des épaves, il y a pas forcément grand intérêt.
Ouais.
Et j'ai passé donc plus tard le niveau 2 ou le niveau advanced, donc pareil en international, pour aller à 30 mètres et voir quelques épaves de plus. Et ça apprend aussi un peu plus la gestion de l'air, parce que forcément plus on va profond, plus on consomme d'air, et donc plus il faut faire attention à ce qu'on va faire sous l'eau pour remonter à temps. Évidemment, c'est le but du jeu quand même.
Exactement, sachant que je sais pas, j'ai vu pas mal de reportages où quand les personnes vont assez profond, t'as différents paliers pour remonter. Tu remontes pas comme ça, quoi, d'une plongée profonde. T'as des temps de réadaptation, c'est ça?
Alors il faut encore une fois différencier la France du reste du monde.
Ouais.
Donc en France, on est un petit peu. On est clairement différent sur la plongée, parce que peut-être de par notre histoire, mais en France on plonge donc ce qu'on appelle la plongée sportive, et le reste du monde, il faut considérer ça comme de la plongée loisir. Donc plongée loisir, c'est-à-dire on peut, à chaque fois qu'on va partir sous l'eau, on doit pouvoir remonter directement à la surface sans faire ses paliers. Donc on va rester un certain temps selon la profondeur, et on doit pouvoir remonter donc en une seule fois. On va toujours faire en général ce qu'on appelle un palier de sécurité. On va rester à 5 mètres pendant 3 minutes pour pouvoir juste un petit peu évacuer plus d'azote. Bon, c'est un petit peu technique.
Ouais.
Et remonter ensuite en toute sécurité. Mais on n'est pas obligé de le faire, ce palier. En France, on plonge plus profond aussi, parce que la Méditerranée est plus profonde. Donc on va aller chercher des plongées qui sont un peu plus techniques, plus sportives. Et du coup, on va dépasser ce temps qui est autorisé sous l'eau. Et c'est pour ça qu'après, c'est comme si on avait un plafond au-dessus de la tête. En fait, on n'a pas le droit de remonter. Sinon, là, on risque effectivement des choses un peu plus graves pour notre santé. Donc, on va s'arrêter une fois ou deux fois selon le temps et la profondeur à laquelle on a été, pour avoir le droit de remonter jusqu'à la surface.
D'accord. Et sur tes centaines ou milliers de plongées, est-ce que t'as eu un problème ou quelque chose comme ça? Est-ce que tu t'es déjà senti pas très bien ou tout?
Alors, étrangement, non, à part vraiment à ces débuts où j'avais énormément de mal pour égaliser mes oreilles, parce que j'ai des trompes de stage qui sont un petit peu différentes, on va dire, de la majorité des personnes. Donc, ça me demandait beaucoup de temps pour descendre et pour remonter, ce qu'on appelle le blocage inversé. Alors, normalement, on a soit l'un, soit l'autre. Moi, j'avais la chance, j'avais les deux. Donc, ça me faisait un petit peu, effectivement, des tournis en sortant, on va dire, de l'eau, où je sentais mes oreilles qui pouvaient des fois avoir des problèmes pour se réégaliser à la surface pendant même une semaine après mes dernières plongées. Et c'était parfois gênant, quoi. J'avais l'impression d'avoir un petit bouchon. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que d'avoir persévéré, d'avoir continué, d'avoir pris le temps, j'ai appris en fait à mieux maîtriser cette égalisation des oreilles, et du coup à pouvoir plonger facilement aujourd'hui.
Génial. Bon, je suis vraiment content d'avoir un peu cette idée. Est-ce que quelqu'un qui a un peu peur de plonger, alors je dis pas forcément que c'est mon cas, mais non, je suis très adepte du snorkeling, ça, ouais. Y a pas de souci à ce niveau-là. Mais c'est vrai que des fois, t'as envie de tenter l'expérience. On te dit, tu parlais d'épaves ou des choses comme ça, alors pas forcément à 40 mètres, mais même jusqu'à 20 mètres, je pense que tu peux voir beaucoup de choses. Est-ce que comment on peut passer le pas? Comment faut commencer, comme tu disais, commencer par un baptême? Est-ce qu'il y a des choses à se dire, à se préparer physiquement, mentalement pour avoir, je pense, avoir la peur du vide dans l'eau. Tu vois ce que je veux dire?
Je connais des personnes qui ont eu, alors, des vertiges inversés aussi.
C'est peut-être ça.
T'es sous l'eau et en fait tu regardes la surface et ça te donne la même chose qu'un vertige, quand t'es en hauteur, mais du coup du fait d'être au fond. Je pense qu'effectivement, déjà, faut commencer par un baptême. Ça sert à rien forcément de se faire trop peur dès le départ. Faut y aller étape par étape. J'ai eu des élèves qui étaient claustrophobes. J'ai eu des gens qui m'ont fait des paniques sous l'eau et en fait qui ont réussi à plonger après. Okay. Effectivement, il faut savoir se dire bon bah peut-être qu'à un moment donné il faut se surpasser. Mmh. Et c'est ce qui est toujours bon dans la vie, c'est d'arriver et se dire bah finalement je l'ai fait, je me suis allé plus loin que ce que je pensais pouvoir aller. Donc peut-être effectivement commencer d'abord par un baptême où on commence, on est à 2 mètres de profondeur, on se dit que bah finalement il suffit presque de se mettre debout sous l'eau et il reste peut-être 15 centimètres avant d'arriver à la surface. Donc c'est comme être au fond d'une piscine.
Clairement.
C'est ce que j'essaye toujours de dire aux gens au début. Et quand je les emmène se promener, on est à 2 mètres et en fait, on descend tout doucement, donc ils s'en rendent pas compte. Et ce qui est drôle, c'est qu'après, quand tu leur dis qu'ils sont allés jusqu'à 5 mètres, c'est, ah ouais, vraiment.
Ils ont pas forcément senti, quoi.
En fait, le début est toujours compliqué, surtout que nous, avec le baptême à l'international, on fait ces fameux exercices de sécurité, bah, pour dire, bon, bah, voilà, si t'arrives ça sous l'eau, bah, tu sais comment réagir. Mmh. Donc, au début, les gens sont un peu stressés, ils se disent que c'est très protocolaire, peut-être. Mais dès que tu commences à te promener, à voir des poissons, tout le monde oublie à quelle profondeur on est. En fait, tout le monde reste assez émerveillé par la découverte d'un nouvel environnement.
Génial. Et tu disais que tu avais monté une école de plongée aux Philippines. Alors, pourquoi monter une école de plongée aux Philippines? Et puis, quel est le but finalement de cette école? C'est que pour les francophones ou est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Qu'est-ce que tu peux nous raconter cette aventure?
Alors j'étais donc en Thaïlande où c'est là que j'ai appris à devenir d'abord un guide de plongée, un dive master, donc emmener des personnes certifiées et ensuite j'ai passé mon niveau pour devenir instructrice et donner à mon tour des cours. Et j'étais avec certains collègues donc sur la Thaïlande et en fait on s'est dit ben pourquoi pas aussi nous vivre de notre passion et monter notre école parce que en Thaïlande ça commence à devenir compliqué. C'était juste avant en 2019, on était loin d'imaginer encore le Covid, mais ça devenait compliqué d'avoir les visas, les permis de travail, etc. Mmh. Et puis on en avait marre de lutter. On s'est dit ben si c'est notre école, au moins on aura nos papiers, on pourra rester autant qu'on voudra travailler dans le pays et puis faire un petit peu aussi comme on a envie, ça. Un petit peu toujours, voilà, le but de quand on monte son entreprise. Et mes deux associés avec qui j'ai créé l'école étaient déjà partis plusieurs fois aux Philippines plonger.
D'accord.
Et ils m'ont dit, les Philippines, c'est la Thaïlande il y a 20 ans. Il y a encore tout à faire. Les fonds sont extraordinaires, ils sont encore plus beaux qu'en Thaïlande. Et du coup, encore une fois, je me suis dit, ben ok, pourquoi pas, allons tenter, alors que je n'avais même pas été plongée une seule fois aux Philippines avant de venir et ouvrir mon école avec eux, ouais, là-bas.
Ta première plongée aux Philippines, tu l'as faite dans ton école.
Ouais, exactement, en train d'ouvrir mon école, donc je suis partie un petit peu explorer avec d'autres écoles de plongée, voir ce qui se faisait sur l'île où on était. Et alors grosse surprise quoi, grosse claque. Je me suis dit mais c'est magnifique. Là j'ai dit ah ouais j'ai plutôt bien choisi l'endroit. Et on a eu pas mal de galères pour faire tout ce qui est papier. Effectivement quand t'es dans un pays qui n'est pas le tien, tu parles pas la langue, même s'ils parlent très bien anglais.
Ok.
Ça a été un petit peu compliqué. On a réussi à ouvrir en janvier 2020 French Touch Diving du coup aux Philippines. Et en mars 2020, on a été frappé par le Covid.
Oui, ça fait mal.
Ouais, ça a été compliqué, mais finalement, on a réussi à s'en sortir. Et aujourd'hui, ça refonctionne très bien.
Ouais. Et est-ce que tu ressens qu'il y a pas mal de le retour des touristes un peu, notamment aux Philippines, même ailleurs? Est-ce que tu vois que ça, il y a un après Covid?
Ouais, alors les Philippines, il faut savoir que ça a été fermé pendant 2 ans entièrement. Enfin, le pays a été complètement fermé au tourisme pendant 2 ans.
Ouais.
Donc de mars 2020 à mars 2022. Donc ça fait un peu plus d'un an que c'est rouvert. Ça a été timide au début, il fallait pareil les passes sanitaires.
Ouais.
Il y avait les histoires de quarantaine pour les non vaccinés, ils étaient très très frileux parce que comme tous les pays pauvres aussi, ils ont pas vraiment les moyens de soigner leur population. Et ça a mis de mars, on va dire, jusqu'à décembre, ça a été très timide le départ. C'est pour ça qu'il y a seulement mon associé qui est présent sur les Philippines aujourd'hui. Et depuis décembre, depuis vraiment traditionnellement la saison haute, c'est vraiment bien bien reparti.
D'accord.
Il y a un bel engouement, je pense, de nouveau du monde entier pour repartir à l'aventure après ces presque 2 ans de pause.
Je veux bien te croire. En tout cas. On parlait des Philippines, tu parlais de la Thaïlande juste avant, t'as parlé de Cuba, tes débuts à Marseille. Il y a une multitude de spots, clairement. On va revenir dessus. Ma première question, c'est quand toi tu vas plonger, tu y vas pourquoi? Est-ce que c'est côté les fonds sous-marins? Est-ce que c'est les poissons, les requins, etc.? Qu'est-ce qui te donne envie d'aller dans la profondeur des océans?
Alors c'est très drôle parce qu'en fait ça peut être complètement différent. Ça peut selon les spots, effectivement, ça peut être juste découvrir de nouveaux fonds, de nouvelles espèces aussi. Alors faut savoir que c'est jamais garanti évidemment de rencontrer telle ou telle espèce parce que ça reste quand même des animaux libres, mais avec l'envie du coup de découvrir certaines choses ou avoir pareil, comme on disait tout à l'heure, une épave, donc on se dit là je vais aller à cet endroit pour voir cette épave qui a peut-être telle histoire derrière elle, ce qui est assez intéressant aussi du coup, c'est un peu remonté dans le passé, c'est assez drôle, c'est comme visiter un site archéologique sur Terre quoi. Et après aussi ça peut être une ambiance, moi j'adore la plongée de nuit. Alors que j'étais terrifiée à l'idée. Avant de plonger, il faut savoir que j'avais peur de l'eau.
Bah écoute,
je ne me baignais pas si je voyais pas, par exemple, mes pieds.
Ouais,
donc il fallait que l'eau soit très claire. Mmh. Et en fait, la plongée m'a appris à enlever cette peur de l'eau. Et le jour où j'ai fait ma première plongée de nuit, pour moi, c'était irréalisable. Hein. Je me suis dit, on va me foutre là-dedans, là, c'est noir. Non, j'irai pas. Et en fait, la plongée de nuit, c'est très drôle parce que on oublie justement qu'il fait nuit sous l'eau. Et on se rend compte qu'en fait, on voit des poissons qui dorment, on voit des espèces qu'on peut pas voir le jour. Et c'est quelque chose, du coup, qui me fascine parce que c'est une atmosphère complètement différente. Et c'est très, très relaxant.
Ok. C'est bien de l'entendre. Enfin, je te garantis pas que je ferai une plongée de la nuit. Déjà, je vais commencer le jour. Et, est-ce que tu peux nous donner ta meilleure expérience, ton meilleur souvenir que t'as sur toutes tes plongées et inversement ton pire souvenir s'il y en a un.
Alors,
une anecdote vraiment.
Meilleur souvenir, je pense que alors c'est pendant le confinement justement aux Philippines, on n'avait plus le droit. Il faut savoir que nous c'était un confinement militaire, donc on avait énormément de restrictions. On n'avait normalement plus le droit du coup de partir en bateau et pas le droit non plus de profiter de la mer alors qu'on était quand même sur des îles. C'était assez drastique et en fait un jour. On n'en pouvait plus. Ça faisait peut-être un mois qu'on pouvait rien faire sur l'île. Et on se dit, on part aux aurores et on va plonger. Avant qu'il y ait les militaires qui commencent à faire un petit peu leur ronde. Alors bon, c'est pas très bien, c'est un peu rebelle, mais voilà, on était en train d'essayer de tuer l'ennui, en fait, de ce confinement. Et on part à 6h du matin, on part de la plage, du coup, parce qu'on peut plus sortir les bateaux. Et on va plonger sur la barrière de corail qui est un petit peu plus loin. Et on a tous le monitorat français, donc on est autorisé à descendre jusqu'à 60 mètres. Et j'avais entendu des Philippins qui me racontaient qu'à cette période de l'année, il y avait potentiellement des requins marteaux. Et je me dis, allez, on va essayer de chercher les requins marteaux qui potentiellement peuvent passer à cet endroit-là. En plus, il y a personne, il y a plus de bateaux en mer, donc il doit y avoir de la vie sous l'eau quand
c'est
même.
Clair.
Et on descend, on est à 60 mètres avec mes collègues. Et d'un coup, j'entends mon associé qui crie sous l'eau. Je dis, mais qu'est-ce qu'il a? C'est pas possible. Et en fait, on cherchait les requins marteaux qui étaient normalement à 60 mètres. Et il y avait un requin marteau qui était au-dessus de nous, qui devait être 20 mètres plus haut, à 40 mètres. Et c'est un souvenir. Je pense que j'ai versé quelques larmes dans mon masque. C'était assez drôle. Ça m'avait énormément ému, quoi. C'était vraiment la récompense de la nature. Bon, on n'avait pas le droit d'y aller, mais c'était vraiment chouette.
C'est magnifique. Enfin, vous n'avez rien arrivé après.
Non, du tout, non.
Mais ouais, donc c'est fallait vraiment le faire finalement.
Ouais, je pense qu'il était là pour nous.
Mais je pense aussi. Incroyable, l'anecdote est ouf. Et à l'opposé, est-ce que t'as un petit truc un peu...
Alors c'est pas gentil pour Montpellier, désolé. Mais j'étais l'année dernière, j'ai un ami qui plongeait donc sur Palavas.
Ouais.
Et qui j'espère qu'il m'entendra. Désolé Valentin. Et du coup, il m'a emmené plonger à Montpellier. Sur Palavas et il faisait froid et on voyait rien et ça faisait longtemps que j'avais pas plongé, donc évidemment, j'avais envie d'y aller mais l'eau était très très froide et il y avait eu beaucoup de mistral, donc elle s'était énormément refroidie. et ça avait remué tous les fonds avec le sable.
Voilà, c'est ça, ouais.
Et donc, ouais, une demi-heure de plongée ou...
Pour rien.
Ben, alors, normalement, je me dis jamais que c'est pour rien parce que j'adore respirer sous l'eau. Mais là, je suis remontée, j'étais bleue. Bleue et j'avais pas pris beaucoup de plaisir.
Bah, écoute, il y en a, même sur Montpellier, écoute, ça peut arriver. Ça peut arriver.
Oui.
Non. Super. Bah, merci déjà pour tout, toutes tes anecdotes. Il y a un sujet qui me tient beaucoup à cœur, mais sur lequel je voulais à tout prix t'en parler. On parle beaucoup de réchauffement, enfin dérèglement climatique, transition énergétique, etc. Tu dis que tu plonges depuis 2010. Je voudrais avoir un peu ton ressenti sur. En plus, t'as fait différents spots, donc t'as dû vraiment voir une évolution assez importante. Est-ce qu'on peut prendre quelques minutes pour parler un peu de toi, ce que tu vois, ce que tu as vu, les différences entre bah, les coraux, la présence des poissons, des déchets peut-être aussi. Est-ce qu'on peut parler de ça? Quel est ton point de vue là-dessus?
Alors effectivement, très tristement, on voit le réchauffement climatique, je pense, beaucoup plus et beaucoup plus vite dans les océans que ce que l'on s'en rend compte sur Terre. Peut-être aussi parce que ce sont des êtres vivants qui s'adaptent peut-être moins bien ou moins vite à ce réchauffement, peut-être que ce qu'on peut voir effectivement nous au quotidien. Et c'est vrai que ben un exemple déjà très frappant, c'est que j'étais en Australie en 2016. J'ai vécu là-bas et la grande barrière de corail que l'on idéalisait tous comme le plus grand être vivant et visible même depuis la Lune, ouais. Ben est clairement en train de mourir, voire est mort à plus de 70%.
Ouais, tous les coraux ont blanchi.
Les coraux ont blanchi. En fait, au-delà de blanchir, la première étape, c'est le blanchiment. C'est quand il est stressé, donc il va expulser la petite algue qui vit en symbiose avec lui, et donc qui va faire qu'il blanchit. Mais une fois qu'il a blanchi, il a encore une petite espérance pour revenir à la vie, à son état normal. Et en fait, c'est quand il est trop longtemps stressé, c'est ce corail effectivement meurt. Et donc là, c'est comme s'il pourrissait un petit peu. Il va se détruire, il va être plus blanc, il va devenir tout gris parce qu'en fait le squelette va commencer à se désintégrer.
Ouais.
Et donc ça, je l'avais déjà vu en Australie en 2016. J'ai vu aussi également. Le plastique énormément en Indonésie, énormément aux Philippines. On se dit que en fait, ben, de toute façon, on va y aller. Hein. Il y a ce fameux sixième continent de plastique.
Exactement,
qui existe. Ouais. Et en fait, c'est même pas le sixième. C'est qu'il se trouve toujours sur les intersections des océans. En fait, il y a des énormes amas de plastique et qui d'un coup font des zones stériles parce que le soleil ne passe plus et n'oxygène plus l'eau à ce niveau-là. Donc on voit ça, on voit qu'il y a forcément du coup moins de poissons, que les fonds marins sont en moins bonne santé. Bah pour en revenir justement, j'ai commencé à Marseille en 2010 et je suis retournée plonger à Marseille pour la première fois l'été dernier. Et il y avait eu cette grosse vague de chaleur, je crois que c'était, je pense au mois d'août.
On l'a eu de juin à août l'année dernière, je crois.
Ouais, et du coup, sur cette période-là, la mer Méditerranée est montée en température. Alors, je crois que c'était au-dessus de 27 degrés pendant un certain nombre de jours, je crois pendant plus de 15 jours. Et en fait, ça a fait des ravages, mais c'était flagrant. Moi, je suis arrivée juste après cette vague de chaleur, et en fait, on voyait énormément de gorgones qui sont gigantesques. Énormément de poissons aussi qui étaient plus là parce que décédés à cause de cette vague de chaleur. Et en fait, ouais, le trop chaud sous l'eau ne pardonne pas, ça tue immédiatement. Et alors on se dit bon, bah c'est bête, ces poissons ils auraient peut-être pu descendre plus profond pour trouver du froid, mais c'est en fait ils vivent à cette profondeur et ils ont pas forcément justement le réflexe ou l'idée d'aller se cacher, d'aller rechercher du froid pour sauver tout simplement leur vie, quoi.
C'est clair. Bah, donc ouais, en 12 ans d'expérience, 13 ans, tu te rends compte vraiment qu'il y a un gouffre entre tes débuts et aujourd'hui. Quelle est la meilleure façon aujourd'hui de pouvoir les sauver et de limiter notre impact finalement en plastique, tout ça?
Alors ouais, c'est ce que je dis toujours. En fait, un bon plastique, c'est un plastique qu'on n'utilise pas parce que En Europe, faussement, on croit qu'on recycle, mais il faut savoir que très souvent, c'est pas recyclé et c'est envoyé justement dans ces pays poubelles, un petit peu comme en Malaisie, où on a des containers et des containers de briques de lait français qui arrivent. Ouais. Où nous, on pense faire une bonne action en le mettant dans la bonne poubelle, et en fait, non, c'est juste qu'en fait, ça va finir ailleurs. Et il faut vraiment essayer de limiter son impact en plastique. Essayer, voilà, je sais que c'est un peu égoïste, mais bon, de se dire, il faut limiter ses déplacements, essayer de réfléchir à toujours, revaloir son empreinte carbone sur ce qu'on fait. Mmh. Donc, utiliser les transports en commun le plus possible. J'essaye toujours de me dire, voilà, consommer mieux, consommer local. Alors, c'est pas forcément facile de le faire tous les jours, mais je pense qu'il n'y a pas de petits gestes.
Ouais.
Et, par exemple, nous, à notre échelle, sur les Philippines, on organise assez régulièrement des nettoyages de plages où il y a beaucoup de locaux, du coup, qui viennent se joindre aussi à nous.
Ah, super.
Et qui, du coup, se rendent compte un petit peu de ce que c'est, de l'hérésie, en fait, de ce qu'on peut trouver sur les plages en termes de plastique. On a aussi un projet de replantation de corail. Okay. Donc, en partenariat aussi avec Ocean Quest Global et Sea Shepherd Dive, où on plante en fait des bébés coraux, donc on a des nurseries de coraux pour essayer de préparer un petit peu l'avenir des coraux. Mmh. Alors c'est peut-être
pour s'adapter aussi à la nouvelle température des océans. Ou...
Alors je sais que c'est beaucoup fait sur justement en ce moment en Australie, c'est essayer de reprendre ces coraux qui vivent dans des eaux un peu plus chaudes,
ouais,
et de les transférer sur ces zones où l'eau est en train de chauffer.
D'accord.
Par exemple, en mer Rouge, on a des coraux qui sont plus adaptés aux températures plus chaudes.
Ouais.
Et donc, c'est faire un petit peu aussi de la bouture, de croiser des espèces pour espérer qu'ils s'adaptent justement à ce réchauffement climatique. Nous, on fait juste... on crée une nurserie, en fait, sur laquelle on va replanter des morceaux de coraux cassés. Donc, il faut savoir qu'on ne détruit rien. Hein. On récupère juste et on va leur donner une deuxième chance. Donc, on, okay, va les coller sur un support pour qu'ils puissent à nouveau, ces morceaux de coraux cassés, se redévelopper et redevenir à un moment donné un nouveau récif.
Super. C'est, ouais, un beau projet. Donc, c'est un projet que tu développes notamment aux Philippines?
Oui, on le fait aux Philippines. On le faisait aussi auparavant en Thaïlande. C'est, on essaie de préparer chacun un petit peu le futur du récif. Et je pense que il en faut de plus en plus des projets comme ça. C'est des projets qui coûtent pas grand chose à mettre en place, mais qui peuvent, il faut voir toujours plus loin. C'est comme planter un arbre, hein.
Bien sûr.
Il faut se dire que le corail, il pousse d'à peu près 1 à 2 centimètres par an. Donc c'est des projets pour dans 20, 30 ans
c'est
peut-être. Mais il faut quand même les faire aujourd'hui.
Mmh, super. Merci beaucoup.
Avec plaisir.
Très belle, très, très beau retour en tout cas. Je souhaiterais terminer sur une dernière question. Aujourd'hui, donc, tu as tout ce background là sur la plongée, ton œil un peu l'évolution des océans. Est-ce que déjà pour les personnes qui adorent la plongée, est-ce que tu peux donner le meilleur spot que t'es fait parce que tu étais partout. Quel est ton meilleur spot aujourd'hui où vraiment tu retiens ta meilleure plongée?
Pour moi, ce serait vraiment, ça a vraiment été l'Égypte. J'ai trouvé que les fonds en mer Rouge étaient vraiment incroyables. Il y avait une richesse, justement beaucoup de poissons. Donc une chance de rencontrer beaucoup de choses sous l'eau, et en plus c'est pas très loin de la France.
Ouais.
Ça, il y a pas besoin d'aller de l'autre côté du monde pour forcément aller voir les plus belles choses sous l'eau, parce qu'il y a aussi des très belles choses en France, mais l'Égypte, ça reste un très bon compromis.
Bon. Et pour les néophytes de la plongée, quel est le conseil donnerais-tu pour débuter et passer le pas finalement?
Je pense qu'il faut il faut pas forcément se dire que c'est un sport dangereux, il peut y avoir des risques ou quoi que ce soit. Je pense qu'il faut commencer doucement effectivement et puis croire en ses rêves, parce que découvrir un nouvel environnement, être l'invité en fait de la mer sous l'eau, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Donc il faut peut-être commencer tout doucement par un baptême et se laisser la chance de découvrir un nouveau monde.
Bon, Bah écoute, je garde très précieusement ces paroles. Merci beaucoup pour ton temps, pour tes explications et j'espère. Bah qu'est-ce que je te souhaite d'ailleurs pour le futur?
Retourner sous l'eau très vite.
Et bah écoute, c'est le mal que je te souhaite.
Merci beaucoup.
Merci, bonne journée à toi.
Merci à toi aussi.
Vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, bravo et merci. J'espère qu'il vous a vraiment plu et si c'est le cas, je vous laisse le partager aux personnes autour de vous et de les inscrire sur ce podcast. N'oubliez pas également de vous abonner, vous serez directement informé de la sortie des nouveaux épisodes. Et pour me montrer votre soutien, vous pouvez mettre une note de 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast, suivi d'un petit commentaire. Je vous en remercie du fond du cœur. Gobayava est mon partenaire pour cette saison 4 et avec le code promo Odyssée, ODY2S2E, bénéficiez d'une réduction de 5% lors de la souscription de votre contrat d'assurance. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine Odyssée.